actuellement, je suis en train de lire dans le en fait, où j'ai lu le livre des Juges et cette partie-là de la Bible, et c'est ça qui m'a inspiré ces derniers temps. Et je vous lis déjà un petit bout ici dans Juges 6. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sur l'arbre ou sous l'arbre sacré qui appartient à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joas, est en train de battre le blé, là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond, pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va. Va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Chapitre 6 des Juges, hein, à partir du verset 11. Je pense qu'on connaît bien cette partie-là, hein, Gédéon, son histoire, et c'est tellement encourageant. Mais en lisant le livre des Juges, certes, j'ai vu aussi ces encouragements, mais je ne sais pas pourquoi j'étais envahi d'une telle tristesse. Déjà, Josué est décédé, Moïse avant lui, et Josué et les gens de sa génération, ils sont morts. Et puis, la manière dont Dieu décrit la génération qui suit, c'est une génération qui n'a pas vu les œuvres extraordinaires que Dieu a faites. Et ça a créé quelque chose, ce manque de souvenirs. Ça a fait que cette nouvelle génération, à la fin du livre, le dernier verset des Juges, c'est « Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais avant d'arriver jusqu'à cette conclusion du livre, il y a tout plein de leçons tout à coup qui me sont devenues claires et je partage quelques-unes avec vous. Déjà, on voit Gédéon et cette partie-là, ce qui m'a le plus étonné, Dieu voit Gédéon et l'appelle combattant courageux ou d'autres versions disent vaillant héros. Et il regarde, je ne sais pas, mais c'est comme s'il regarde en arrière, il est où le vaillant héros? Le dessein de Dieu pour nous. Et je me suis dit, c'est tellement drôle, mais triste à la fois. Dieu voit complètement autre chose et Gédéon, il voit, mais complètement l'opposé, en fait. Et pour moi, ça m'a rappelé cette vérité qui est quand même plusieurs fois rappelée dans la Bible. Quel est le regard que Dieu pose sur moi, sur son Église? Et sur le monde en général. Mais si on revient à nous comme individus, quel regard Dieu pose sur ma vie? Sur la vie de Gédéon, Dieu posait le regard de vaillant héros. Mais lui, vous connaissez peut-être un peu son contexte. Il se cache pour battre son froment, en tout cas là où on ne devait pas faire ça, en gros. Donc, il avait peur des Madianites, mais Dieu l'appelle courageux. Et un vaillant héros qui est caché. Mais c'est le monde à l'envers. Et puis, c'est un de ces aspects qui m'attristait en disant, quelles sont ces occasions où Dieu attend de moi ou de quelqu'un de ses enfants, mais je vois en toi cette personne qui est la clé pour cette situation et cette personne exactement est en train de se cacher en disant, ben non, il y a d'autres, mais surtout pas moi. Déjà, on ne sait pas si tu peux le faire et si tu peux le faire, c'est surtout pas avec moi ou parce que je ne suis pas digne, nous on est les plus petits, nous on est les... Donc voilà une première idée qui est là et puis... Avant, quand je lisais ces histoires, je disais, mais c'est eux, au fait, hein, c'est l'Ancien Testament, ils n'ont rien compris. Je ne disais pas comme ça, mais après, je suis devenu déjà un peu plus humble en disant, oui, tout à coup, dans notre chemin de vie, je ne sais pas par A ou B, ou tout ce que l'ennemi essaye de voiler nos vues, il ne voit même plus ce que Dieu est en train de voir. Et c'est ce premier aspect, en fait. Hein. Comment tu te vois actuellement dans ta vie, dans ta marche avec Dieu? Et est-ce que c'est synchronisé avec le regard de Dieu? Donc voilà, déjà, si on peut laisser déjà cette question résonner en nous, dans quelle mesure le regard de Dieu et mon regard sur ma vie sont synchronisés? Et il y a un verset où Dieu dit dans Ésaïe, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, comme le ciel est au-dessus de la terre. Puis, lisant les Juges et ce verset, j'ai dit, mais Seigneur, oui, mais d'un autre côté, je voudrais que, même si tes pensées sont si loin, je veux quand même que les miennes soient synchronisées avec les tiennes, en fait, ouais. Et donc, voilà. Et puis, un autre point, je l'ai appelé ici, Dieu n'est pas attractif. Dieu n'est pas attractif, mais il est durable, en fait. C'est pas le bon mot pour le traduire, mais c'est comme un résumé de la vie de ces Israélites. C'est le refrain qui revient chaque fois. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu et Dieu les a livrés entre les mains de tel peuple, de tel autre peuple. Et ça revient. Et après, tout à coup, ils commencent, Seigneur, mais sauve-nous cette fois-ci. On va changer et puis ce sera cool. Et puis Dieu, à un moment donné, a pitié, il les sauve. Et la fois d'après, la même chose. Et puis, je me suis mis un peu à la place, non de Dieu, mais des Israélites, en disant, mais qu'est-ce qu'ils voyaient? Pourquoi ce Dieu dont ils ont entendu parler, pourquoi ils traitaient Dieu de cette manière? Et encore, ce que je me suis réalisé, c'est Dieu n'est pas en train de se faire la pub, venez à moi, ce sera cool. Non. On voit même dans les évangiles, le royaume de Dieu des cieux est comparé à un trésor caché. Il faut être en train de creuser jusqu'à le trouver. Et j'ai l'impression, d'un autre côté, c'est quand même écrit dans les proverbes, la sagesse crie à la porte, en fait, des villes ou dans les lieux bruyants. Mais j'ai cette impression que Dieu n'est pas là en train de dire, ah, mais pourvu qu'ils viennent à moi, sinon je serai seul. Non. Mais celui qui cherche Dieu, qui est prêt à creuser, peut-être plus patient. Après, quand on arrive dans ces zones de cœur à cœur avec Dieu, ça donne une telle joie que j'ai parlé un peu de la culture de micro-ondes. Aujourd'hui, on a les repas industriels, hein, et en 5 minutes, tu peux avoir un repas chaud sur ton plat. Mais un même repas, on peut imaginer, tu plantes ton légume dans le jardin, tu l'arroses, ça fait peut-être déjà quelques semaines, hein, et puis après tu vas cueillir ces légumes et puis tu cuisines. Hein, et un repas, ça prend des heures, mais tu manges un simple repas et l'autre a déjà mangé, a déjà eu son repas prêt en 5 minutes. C'est le même repas, mais l'un est plus sain. Sur du long terme, l'un a plus de bénéfices que l'autre. C'est tellement limité, hein, ces images, mais j'ai l'impression Dieu est comme ce repas qui prend du temps à cuisiner, à préparer, et après on peut gagner. On peut vraiment profiter de ce repas. Et de l'autre côté, quelqu'un à côté peut déjà avoir un truc, même bien des fois, et puis continuer son chemin. Mon défi, c'est de ne pas être dans cette recherche de Dieu. Seigneur, tu réponds, sinon j'ai d'autres solutions à côté, en fait. Et puis, c'est un peu cette vie des Israélites. Seigneur, mais si tu n'agis pas vite, tu sais, il y a les Baals, et puis on peut aller chez eux. Et les Baals, eux, ils sont attractifs. Les autres dieux, surtout que tous les gens qui les entourent faisaient la même chose. Donc, les Israélites disaient, mais ça devait être intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas les mêmes pièges? Peut-être c'est. Je n'ai pas de crainte que vous alliez mettre un bout de terre et commencer à mettre de l'huile dessus. Non, ça on ne fait plus. Mais il y a tout plein d'autres choses qui sont là et tellement attractives au point où ils voilent Dieu à nos yeux. Malheureusement, c'est des fois, quand on a tourné en rond, on se rend compte, mais comment j'ai pu être aveuglé à ce point? Et ils ont tellement de noms. C'est vrai que Jésus va les résumer sous un seul nom en disant, on ne peut pas servir deux dieux. En fait, hein, deux maîtres, pas possible. Soit Mammon, soit Dieu. C'est quand même curieux que Dieu donne autant d'importance à ce Dieu-là. C'est pour dire qu'il a une puissance d'attraction et lui, il est attractif. Ce Dieu-là, il est attractif. Mais Dieu, lui, ne se fait pas attractif. Seulement celui qui le cherche et qui le cherche vraiment le trouve. Donc, du coup, après le regard de Dieu sur moi, il y a aussi de quel côté je cherche Dieu. Dans les trucs vite faits. Et donc, voilà. Il y a aussi la vie dramatique de Samson. Comme je l'ai lu en continu, son histoire, et de voir du début à la fin, et même tu as une colère, une tristesse, j'ai dit, mais quel gâchis, mais et puis, de l'autre côté, je me raconte, Samson a été comme juste un exemple qui montre tout le peuple, quelque part. C'est tout le peuple d'Israël en miniature. Lui en lui est condensé dans une simple vie tout ce que le peuple vivait sur des siècles, au fait. Donc, dans sa vie, on voit et la colère nous frappe plus à l'œil, mais sur l'histoire du peuple, c'est plus dilué. Bon, ils ont souffert 7 ans et Dieu les a délivrés 40 ans et puis le juge meurt et puis ils repartent et puis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de ces gâchis aujourd'hui dans le corps du Christ, des membres qui sont peut-être atrophiés et le corps souffre que ces membres ne soient pas là, en fait, ne soient pas actifs. Et qu'est-ce qui atrophie ces membres à ce point qu'il est et puis ouais, le peuple de Dieu. Il y a aussi ce point, peut-être que je le prends plus vers la fin, mais il y a un autre aspect, c'est déjà dans Samuel, hein, premier Samuel, où les Israélites, à la fin de la vie du dernier juge, Samuel, ils vont voir Samuel et ils disent, écoute, tu as vécu au milieu de nous ta vie, on n'a rien à reprocher, mais tes fils, ouais. Alors, donne-nous un roi. On en a marre. Donne-nous un roi. Et puis, Samuel va prier. Il dit à Dieu, mais voilà tout ce que le peuple dit. Et le peuple, Dieu lui dit, en gros, ce qui est derrière leur demande. C'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette comme roi. Et écoute-les dans tout ce qu'ils te demandent. Sauf que tu dois leur rappeler, les droits du roi. Et Samuel rappelle tout. Peut-être en imaginant un peu, ah, mais ça va les décourager, ils vont changer d'avis. À la fin, on dit, ils disent, oui, écoute, c'est dit, ils n'ont pas écouté ce que Samuel a dit, nous voulons quand même notre roi, nous voulons être comme les autres peuples autour de nous, et Samuel leur a donné un roi. Et puis, j'ai comparé ça un peu avec un exemple du Nouveau Testament, la vie de Jésus. En gros, Dieu avait aussi un plan de donner un roi à Israël. Mais pas à ce moment-là, probablement. Et quand le vrai roi est venu, Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Crucifie-le! Et ça, quand ils ne doivent pas avoir un roi, ils l'en demandent. Quand Dieu envoie le roi, il le tue. Et j'ai dit, mais bon, avant j'aurais été encore plus fâché contre Israël ou contre eux, c'est eux, quoi, ils n'ont rien compris. Maintenant j'ai dit, mais bon, oui, peut-être qu'il n'y a pas besoin de retourner des siècles en arrière pour voir ces gens, quoi. Et comme un aveuglement qui est tellement fort. Mais bon, des gens qui réfléchissent comme eux de vaillant combattant, mais comment il ne voit pas? Est-il personne pour alerter, pour dire, mais on est en train de s'enfoncer dans le bourbier? Et non. C'est même païen, Pilate, qui vient leur dire, mais je suis déjà dans le Nouveau Testament, hein, dans la vie de Jésus, qui dit au procès de Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a compris que c'est par jalousie qu'ils lui ont livré Jésus. Et alors qu'il était en train de, en fait, au tribunal, sa femme vient, lui dit, mais écoute, à cause de ce monsieur, de cet homme, j'ai souffert toute la nuit, n'ai rien à faire dans son histoire. Et puis, donc, il essaye de tourner la chose pour les convaincre. Qu'est-ce qu'on fait de votre roi? C'est un païen qui leur rappelle, c'est votre roi, alors qu'ils ont cherché un autre roi avant, mais crucifie-le. Donc, ils ne reconnaissent pas leur roi. Et quand ils ne devaient pas avoir un roi, ils en prennent un. Et ce qui est curieux, c'est, maintenant on revient dans 1 Samuel. Quand Samuel leur donne un roi, il va faire une prière pour leur montrer toute leur désobéissance. Ils disent, vous savez, ils disaient, vous savez, maintenant c'est la saison sèche. Normalement, il ne devait pas y avoir de pluie. Pour vous convaincre du mauvais choix que vous avez fait, je vais prier et Dieu va envoyer la pluie. À un moment où il ne peut pas y avoir de pluie. Comme ça, vous saurez le choix que vous avez fait. Et Samuel prie, le tonnerre gronde, et il pleut comme il ne devait pas pleuvoir. Et à partir de là, ils ont pris peur. Ils disent, mais en plus de tous nos péchés, on a choisi encore un roi en plus. Mais Samuel les rassure en disant, maintenant que vous êtes au courant de ce que vous avez fait, craignez Dieu. Mais ça a dû un peu de temps, et puis c'est reparti. Donc c'est un peu cette vie ou cette histoire de ce peuple, l'histoire de ce peuple-là qui m'interpelle, non pas pour qu'on fasse comme ça, parce qu'on sait quand on fait comme ça, il y a plusieurs doigts qui viennent chez nous, et c'est Paul qui nous donne quelques clés pour décoder la chose. Tout cela a été écrit pour votre instruction, que Paul dit dans les épîtres plus tard. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça, de la vie de ces gens? Peut-être qu'ils ne savaient pas tout ce qu'ils vivaient, tout ce que ça signifiait pour des générations après eux. Mais nous, on a la grâce de pouvoir apprendre de leurs mauvais exemples, de leurs mauvais choix pour ne pas faire comme eux. Et l'exemple dont je parlais, c'était dans Juges 11, verset 19. Ça, j'ai trouvé tellement, en fait, en même temps drôle, mais très spirituel. Le peuple dit, quand ils étaient en train de traverser le désert pour aller vers Canaan, là, on était déjà dans Canaan, hein, durant le temps des juges, mais là, on va un peu dans le désert, où ils disaient à un autre roi, laisse-nous traverser ton territoire pour aller dans le pays qui sera le nôtre. J'ai dit un drôle de peuple. Un peuple sans pays. Et en même temps, ils ont une grande foi, ce peuple. Ils traversent le désert et ils savent qu'un pays les attend. Il dit, laisse-nous traverser ton pays pour aller dans le pays qui nous appartient. Mais c'est un pays encore rempli de gens mais ils savaient qu'ils auront ce pays. Et je ne me suis pas empêché de penser à nous. Même si on habite tous à Bienne, on appartient tous à une église, mais on appartient à encore une plus grande famille, qui est une famille un peu partout dispersée dans le monde. Et on est en train de marcher comme ce peuple dans le désert. Souvent, Dieu compare notre monde ici à un désert, en fait. Et on marche dans le désert vers un pays qui est le nôtre. Et puis, ce serait dommage qu'on commence à s'installer, en fait. Même si on sait que dans le pays où les enfants d'Israël sont arrivés, ça n'a pas été simple, mais ils avaient eu ça comme but. Nous, la différence, le pays qui nous attend, il n'y aura plus de combat là-bas. Il n'y aura plus de Madianites, il n'y aura plus de mal. Il est dit dans Apocalypse, je vois de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Les premières choses sont passées. Il n'y aura plus ni deuil, ni tristesse. Et c'est ce pays-là qui est le nôtre. Et Peut-être ça peut nous encourager. Certainement, c'est comme ça Dieu l'a pensé, que ça soit un encouragement pour nous alors qu'on est en train de traverser. En fait, hein, on voit des gens qui nous ressemblent, mais qui vivent complètement autrement. Et on dit, mais non, nous, on appartient à un autre pays. Donc, ne nous arrêtons pas en disant, mais c'est aussi des humains, faisons comme eux. Non. Donc, voilà un peu, je vais résumer encore quelques leçons que j'ai apprises de ce livre des juges. La vie de Gédéon qu'on a vu, Gédéon qui se voyait complètement, mais à l'opposé de ce que Dieu voyait. Dieu voyait un vaillant héros. Gédéon voit membre de la tribu la plus petite et de cette tribu de la famille la plus petite et de cette famille le plus petit. Il y a dans son cahier, lui ne voyait rien qui corresponde à quelque que Dieu peut utiliser. Et des fois, je me vois aussi comme ça. Et si tu te vois comme ça, on a juste à dire, mais Seigneur, pardonne, je veux aligner mon regard sur le tien. Hein? Aligner nos regards sur le regard de Dieu, le dessein originel de Dieu pour ma vie. Et des fois, on peut courir dans tellement de directions parce qu'on ne connaît pas ou on ne s'aligne pas sur ce dessein-là, en fait. Tout plein de trucs attractifs à droite, à gauche, où on dit, mais au moins je peux vivre mon sentiment d'infériorité là-bas, mais le défi que Dieu me lance, je ne le prends pas. Et c'est en prenant ce défi-là, mais tout à coup, je découvre en moi l'appel de Dieu. Aligner notre vue sur la vue de Dieu. J'ai aussi parlé de Dieu n'est pas attractif, mais durable. Vous comprenez l'idée, les mots sont très limités. Peut-être une fois, je trouve encore un meilleur. Mais Dieu n'est pas en train de dire, ben, s'ils ne viennent pas, je serai seul. Certes, il nous aime et il nous cherche. Mais c'est seulement celui qui le cherche qui le trouve. Parfois, il se révèle à ceux qui ne le cherchent même pas. Ça, c'est dans la logique de Dieu. Mais notre relation avec Dieu, ça ne nous tombe, souvent, ça ne nous tombe pas dessus, en fait. C'est quand on le cherche qu'il révèle ses trésors. Donc, cherchons le repas qui prend du temps, mais qui est tellement bon et sain. Et puis, il y a des drames, fait, hein, même dans la vie des chrétiens ou dans le corps de Christ, mais tout ça doit nous rapprocher de Dieu, crier à Dieu en disant, mais nous voulons revenir, nous recentrer sur toi. Et puis, cette confusion du peuple d'Israël, quand ils ne devaient pas avoir un roi, ils en cherchent. Quand le roi est là, ils ne le reconnaissent pas, et non seulement ils le tuent. Donc ça nous interpelle, le discernement. Est-ce que je vois comme tu vois? Est-ce que mon regard sur cette situation correspond à ton regard ou c'est juste faussé par des choses que j'ai vécues ou mes idées sur moi? Et je crois que je trouve tellement encourageant ce peuple qui marche dans le désert et dit, il y a un pays qui nous attend. Et puis on veut entrer. Laissez-nous simplement passer. Hein? Continuez votre histoire, mais nous, laissez-nous passer. En fait, on va vers un pays qui nous appartient. Et parfois, on a l'impression d'être bizarre parce qu'on dit, mais bon, pourquoi on ne peut pas juste s'arrêter avec les autres et vivre, en fait? Et oui, on a un pays qui nous attend. Et là, on sera avec celui qu'on a aimé sans avoir vu. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu peux nous apprendre de la vie de ton peuple. Merci d'avoir placé ce peuple devant nous pour qu'on puisse apprendre de leurs succès, mais aussi de leurs erreurs. Et aujourd'hui, tu sais là où je me trouve, tu sais là où chacun de nous se trouve. Et aide-nous, Seigneur, à nous centrer sur toi. Aide-nous à te chercher de tout notre cœur parce que tu te révèles. Et oui. Et je me réjouis de ce moment où, avec mes frères ici, mes sœurs ici et d'autres frères que je ne connais pas, mais qui sont quand même mes frères, d'autres sœurs que j'ai jamais vues, où ensemble, on va passer tout notre vie, toute l'éternité à te célébrer. Peut-être le temps ici semble le désert. Ouais, aujourd'hui c'est pas désert, même s'il fait chaud, mais dans le désert il fait encore plus chaud. Mais tu nous aides, Seigneur, à continuer ce chemin jusqu'au bout, que personne n'abandonne. Merci, Jésus. Amen.